Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30, temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 31 mai 2017. Morgane Guerriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, en Côte d'Ivoire, le gouvernement et les démobilisés annoncent un accord sans révéler le contenu. Au Niger, une vingtaine de personnes envoyées en prison dans l'affaire de trafic de bébés, dont l'épouse de Ama Amadou. Et nous reviendrons sur le retour sur la scène politique sénégalaise d'Abdoulaye Wade à l'âge de 91 ans.
Il considère sa décision comme le résultat des manipulations qui auraient été orchestrées par son fils Karim Wade, lequel aurait envie de revenir.
Au Maroc, nouvelle manifestation cette nuit à Al-Oseima pour réclamer la libération de Nasser Zefzavi. Retrouvez Bagassi Koura à la fin de ce journal pour les sports et Abdourahmane Dia pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les démobilisés. Ces anciens rebelles avaient manifesté leur colère il y a 10 jours à la suite des primes perçues par des soldats mutins. On fait le point avec Eric Manirakiza.
Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a déclaré qu'un accord a été trouvé. On ne paie pas les primes, mais nous avons trouvé un terrain d'entente, a-t-il ajouté. De son côté, Diomède Megbe, porte-parole des démobilisés, a précisé après leur rencontre à Abidjan, que le gouvernement a fait de belles propositions et la protestation est terminée. Aucune des deux parties n'a voulu révéler le contenu de l'accord. Les démobilisés sont d'anciens rebelles qui n'ont pas été intégrés à l'armée. Ils réclamaient des primes de 18 millions de francs CFA chacun, c'est-à-dire la même part de butin que les anciens rebelles intégrés à l'armée ivoirienne et qui ont obtenu chacun 12 millions de francs CFA après plusieurs mutineries. 5 démobilisés ont trouvé la mort, dont 4 le 23 mai, lors de la dispersion musclée de leur mouvement Bouaké, ancien fief de la rébellion.
En Côte d'Ivoire toujours, un petit groupe de partisans de Laurent Gbagbo manifestait ce soir à Paris pour réclamer la libération des prisonniers politiques dans leur pays et de l'ancien président ivoirien jugé à La Haye par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Au Niger, une vingtaine de personnes, dont l'une des épouses de l'opposant Ama Amadou, ont été incarcérées. Elles avaient été condamnées, souvenez-vous, en mars, à 1 an de prison pour un trafic de bébés. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est à partir de la gendarmerie nationale où elles ont été convoquées pour recevoir la notification de leur incarcération que la vingtaine de personnes condamnées dans cette affaire a été conduite dans les prisons de Saï pour les hommes et Kolo pour les femmes. Parmi ces dernières, l'épouse de Ama Amadou, condamné lui-même à 1 an de prison, mais absent du territoire national depuis mars 2016. Il y a aussi l'ancien ministre Abdoulabo, actuellement député à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir attendu près de 2 mois pour les incarcérer? Une source judiciaire affirme à VOA Afrique que c'est le temps pour rédiger l'arrêt final de condamnation, mais aussi pour remplir un certain nombre de formalités, notamment la signification par voie d'huissier aux condamnés de la décision. Dans les milieux proches des personnes incarcérées, c'est plutôt la récente saisie par Ama Amadou de la Cour de justice de la CEDEAO dans cette affaire qui a fait que la décision est en train d'être exécutée par peur de la voir cassée par la juridiction communautaire. En rappel, cette affaire de bébés importés a fait grand bruit ici au Niger depuis 2014 qu'elle a été révélée par un journal de la place. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Tchad, le militant Maoundé Décladore, porte-parole du mouvement Ça doit changer, a été remis en liberté provisoire mardi pour des raisons de santé. Il a été détenu au secret pendant plus de 20 jours. Son avocat pense qu'il a été empoisonné. Règlement de compte sanglant entre policiers et militaires au Nigeria. Des officiers de la marine ont tué 2 policiers à Calabar, dans le sud-est du pays. Ils ont ensuite incendié le poste de police. Saliou Djoubril, le commandant de la marine, a assuré que les coupables seront traduits en justice. Le chef de la police de l'État, Inoua Haviz, a relativisé. Il ne s'agit que d'une mésentente entre jeunes officiers à un checkpoint. Au Kenya, l'explosion d'un engin artisanal a tué 4 policiers civils à Baoré, dans le nord-est du pays. Il y a une semaine, des attentats revendiqués par les islamistes Shebab avaient fait 14 morts, tous des policiers. On fait le point avec Yakuba Ouedraogo.
Un véhicule transportant 7 policiers a sauté sur un engin explosif à Baoré, dans le nord-est du Kenya. 2 policiers sont toujours portés disparus. On ignore si la victime civile se trouvait à bord du véhicule de la police. Aucune revendication n'a été faite pour le moment. Cependant, il y a juste une semaine, des attentats similaires avaient tué 14 policiers. Toutes ces attaques ont été revendiquées par les islamistes somaliens Shebab. Le chef de la police kényane, Joseph Boanet, a toutefois mis en garde contre le risque de multiplication des attentats pendant le mois de Ramadan. Le Kenya a subi plusieurs attaques terroristes depuis le début de son intervention militaire en Somalie. En 2013, l'assaut contre un centre commercial de Nairobi avait fait 67 morts. Et en 2015, à l'université de Garissa, les djihadistes avaient massacré 148 personnes.
Les autorités éthiopiennes annoncent avoir désactivé les services de l'Internet mobile dans le pays sans fournir d'explications. Il s'agit de la deuxième coupure du genre ces derniers mois, après celle ayant duré plusieurs semaines l'année passée, alors que le pays était le théâtre de manifestations antigouvernementales violemment réprimées. Et puis en Tunisie, des familles de migrants portés disparus depuis leur tentative de rejoindre l'Europe par la mer accusent les autorités de leur pays de négligence. Au total, 503 dossiers ont été déposés au ministère des Affaires étrangères. Depuis 2011, des milliers de Tunisiens ont tenté de gagner par la mer l'Italie. Un grand nombre de leurs proches restent sans nouvelles de leur sort.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La capitale afghane a connu un de ses plus violents attentats ce matin. L'explosion d'un camion PJ a tué au moins 90 personnes et fait des centaines de blessés dans le quartier diplomatique de Kaboul. Les précisions de Jacques Aristide.
La déflagration déclenchée près de l'ambassade d'Allemagne a été causée par une citerne à eau contenant plus d'une tonne et demie d'explosifs, d'après des sources à Kaboul. Elle a été actionnée par un kamikaze, provoquant une onde de choc dans la ville et d'énormes dégâts dans cette zone, pourtant ultra protégée, vu qu'elle abrite de nombreuses ambassades barricadées derrière de hauts murs. Les talibans ont affirmé sur Twitter ne pas être impliqués dans l'attaque et l'a fermement condamnée. Ils ont par le passé rarement revendiqué les attentats dans lesquels le nombre de victimes civiles s'avérait très lourd. Quant au groupe État islamique, auteur de plusieurs attentats sanglants dans la capitale afghane ces derniers mois, il ne s'était en revanche pas exprimé à ce stade. Selon le ministère afghan de la Santé, beaucoup de femmes et d'enfants figurent parmi les nombreuses victimes. Et le bilan pourrait encore s'aggraver à mesure que de nouveaux corps sont retirés des gravats.
À noter que la Maison-Blanche a condamné, je les cite, cette attaque atroce. Le fait que cette attaque ait eu lieu pendant le mois du Ramadan souligne sa dimension barbare, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche. Et le suspense continue autour de l'accord de Paris sur le climat. Le président Donald Trump a promis sur Twitter qu'il rendrait sa décision publique dans les prochains jours. Plusieurs médias américains annoncent que les USA vont se retirer de cet accord conclu entre 190 pays fin 2015 à Paris pour limiter les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement de la planète. Et dans le même temps, l'Union européenne et la Chine vont soutenir l'accord de Paris sur le climat lors d'un sommet en fin de semaine à Bruxelles. L'Allemagne a annoncé aujourd'hui vouloir vérifier des dizaines de milliers de titres de séjour accordés à des demandeurs d'asile après qu'un soldat allemand, soupçonné de préparer un attentat, eut réussi à se faire passer pour un réfugié syrien. Ces vérifications qui vont démarrer cet été vont concerner jusqu'à 100 000 dossiers déposés ces deux dernières années par des demandeurs d'asile âgés de 18 à 40 ans et originaires d'une dizaine de pays, selon le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière. Au Brésil, le groupe J&F, impliqué dans le scandale de corruption qui éclabousse le président Michel Temer, a accepté de payer une amende de plus de 3 milliards de dollars pour éviter un procès. Les entreprises du groupe ont été ciblées par plusieurs enquêtes anticorruption, une d'entre elles dans le cadre d'un récent scandale de viande avariée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. enchaîne sur l'actualité économique en Afrique. Abdourahmane Dia, la Minute Éco.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a inauguré ce matin une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi à Mombasa. Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure accompli dans le pays depuis son indépendance en 1963. Il devrait asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Une cérémonie en grande pompe a débuté dans la ville portuaire de Mombasa, depuis laquelle M. Kenyatta a rejoint la capitale Nairobi dans un train de passagers. Un trajet de 472 kilomètres. Le projet est financé par la Chine. Son coût, 2,8 milliards d'euros. En Côte d'Ivoire, Mediterranean Shipping Company, MSC, le deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs du monde, a annoncé la signature d'un contrat de concession d'une durée de 35 ans avec le port de San Pedro, portant sur l'exploitation de son terminal à conteneurs. La moitié des exportations du cacao ivoirien transite par le port de San Pedro. Le Rwanda veut booster ses revenus touristiques. Le pays prévoit 444 millions de dollars de gains cette année, contre 404 millions de dollars en 2016. Selon les acteurs du secteur, cette hausse de 10% des revenus est largement réalisable. Le Rwanda est classé 11e pays africain en termes de compétitivité touristique par le World Organization Forum. Les autorités rwandaises ont entrepris ces derniers mois de nombreuses initiatives pour améliorer l'attractivité de leur industrie touristique, avec notamment la relance de la compagnie aérienne nationale Rwandair.
Et on enchaîne sur les sports. Bagassi Koura, mes côtés, bonsoir.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
En football, Arsène Wenger prolonge à Arsenal.
Oui, l'entraîneur français de 67 ans a prolongé son contrat pour 2 ans à la tête du club anglais avec l'ambition de redresser la barre après une saison en pleine tempête. Il prolonge donc ce contrat au moment où les fans sont à bout de nerfs, une absence de la Ligue des Champions pour le club Arsenal et un naufrage contre le Bayern Munich. Seule la 7e victoire en Coupe d'Angleterre samedi dernier a permis à Wenger de redorer un peu son blason.
Tennis, Roland-Garros, Milos Raonic accroché.
Oui, le Canadien, 6e joueur mondial, a été bousculé par le Brésilien Rogério Dutra Silva, 79e joueur mondial, avant de se reprendre et de l'emporter en 4-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 pour accéder au 3e tour de Roland-Garros. Raonic affrontera au prochain tour l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez, ex-numéro 23 mondial, retombé au 153e rang.
Alors, début demain de la finale NBA.
Oui, pour la 3e année consécutive, la finale de basketball va opposer à partir donc de demain, comme vous dites, Cleveland à Golden State. Ce duel attendu depuis le début de la saison va départager 2 équipes déjà entrées dans l'histoire. 7 joueurs qui débuteront à Oakland le match numéro 1 ont en effet participé au All-Star Game en février dernier. Le All-Star Game, c'est ce match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de la NBA. Golden State, il faut le dire, est la meilleure équipe de la saison régulière avec 67 victoires et 15 défaites. Et Golden State qui a foncé en finale en seulement 12 matchs, tous gagnés avec un écart moyen de 16,3 points. Et face à Portland, c'était 4-0. Utah 4-0 et San Antonio également 4-0. Du jamais vu donc, Morgan, dans l'histoire des playoffs en NBA. Et un mot sur Cleveland qui a aussi eu besoin d'un match de plus, mais a fait tout aussi forte impression en dominant tour à tour Indiana 4-0, Toronto 4-0 et Boston 4-1. Donc Morgan, le rendez-vous est donc pris. Hein. Ça commence demain la finale de cette série. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez une préférence, hein. Golden State, Cleveland avec LeBron James.
Oui, voilà, absolument, puisque je m'y connais tellement, je peux définitivement me permettre de choisir une équipe, mais peut-être vous, Bagassi,
pourriez-vous nous dire ? Non, moi c'est Golden State, l'équipe de l'Ouest avec Steph Curry, et je pense que cette équipe qui a fait 0 faute pendant les éliminatoires va remporter donc ce tournoi. D'accord. En tout cas, on verra.
Barbecue chez vous demain donc.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, c'est les dossiers du jour. Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur a clôturé hier la période de dépôt des listes de coalitions qui entendent compétir pour les législatives du 30 juillet prochain. L'opposition qui espère imposer une cohabitation au président Macky Sall part en ordre dispersé. Mais c'est surtout l'annonce du retour de l'ancien président de 91 ans, Abdoulaye Wade, qui fait couler beaucoup d'encre à Dakar. Alors pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint Momar Dieng, le directeur de publication du journal Nouvel Hebdo.
L'opinion est assez partagée. Du côté du pouvoir, les gens sont plus ou moins choqués de voir que Nathouade, après sa défaite de 2012, puisse pouvoir revenir et diriger une liste législative. Et cela est analysé toujours du côté de la mouvance présidentielle, comme un moment de revanche pour lui-même, Nathouade, après sa défaite de 2012. Pas seulement du côté du pouvoir, mais même sur les flancs du Parti démocratique sénégalais, qui est le parti de Abdoulaye Wade, il y a une dissidence conduite par son ancien chef de cabinet, Pape Samoubou, et par son ancien ministre, Fado Senghor, pour qui Wade n'aurait jamais dû accepter ce nouveau challenge. Et il considère sa décision comme le résultat des manipulations qui auraient été orchestrées par son fils Karim Wade, lequel aurait envie de revenir parce que, derrière tout cela, il y a un peu l'espoir ou l'espérance d'une victoire à l'élection. Il y a aussi une frange des Sénégalais qui se réjouissent un peu, de ce retour de Wade. Et souvent, c'est en réaction par rapport à ce qu'ils considèrent comme une panoplie de mauvaises politiques, de mauvaises politiques menées par le président Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir en 2012.
Est-ce que Abdoulaye Wade est toujours populaire auprès des Sénégalais? Certains pensent que c'est ce qui justifie la décision de cette coalition de le mettre, de le placer en tête de liste.
Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, parce que quoi que l'on puisse dire de l'homme, je pense qu'Abdoulaye Wade a encore un bassin électoral assez important. Maintenant, depuis 2012, le PDS s'est notablement affaibli avec le départ de plusieurs de ses tenants.
Cette opposition est très éclatée, si on peut le dire ainsi. 45 listes selon les médias sénégalais. Quelles sont les chances de cette opposition qui veut imposer la cohabitation à Macky Sall?
Dans l'histoire politique plus ou moins récente du Sénégal, je pense que les partis au pouvoir, les coalitions qui sont au pouvoir ont toujours largement gagné les élections législatives à cause justement du mode de scrutin majoritaire, le mode de scrutin départemental. Donc je pense que moi, d'une façon générale, à moins qu'il y ait une grosse surprise, je pense que la majorité présidentielle, la coalition d'Elmo Bokayakar, pourrait se retrouver largement vainqueur des législatives.
Voilà, c'était le journaliste sénégalais Momar Dieng, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est rendu dans le Kasaï central. C'est sa première visite dans la province depuis le début en septembre d'une vague de violences meurtrières. Il a déjà reçu différents leaders d'opinion. Solange Niamoulissa a joint Sostène Kambidi, journaliste à la radio communautaire télévision chrétienne à Kananga, au Kasaï central.
Le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé à Kananga ce mardi. Il n'a fait aucune déclaration parce qu'il était prévu qu'il tienne un meeting populaire, la population l'attendait, mais il a dirigé une réunion de sécurité au bureau du gouverneur. Depuis ce mercredi matin, le chef de l'État accorde des audiences d'habilité de la province, des chefs coutumiers, des leaders des partis politiques, des activistes et de la société civile.
Comment les gens réagissent-ils par rapport à la visite du président Kabila au Kasaï?
Les réactions sont diversifiées pour les chefs coutumiers. Il ne va pas, le chef de l'État, la pacification de la province du Kasaï central en particulier et de l'espace du Grand Kasaï en général. Pour les acteurs politiques, le porte-parole du rassemblement au Kasaï central a dit tout à l'heure qu'il devait transmettre un message au chef de l'État. C'est que le chef de l'État retire de la liste du secteur opérationnel l'espace Grand Kasaï parce qu'il dit que les militaires, le secteur opérationnel est en poste au Kasaï. Les acteurs politiques de l'opposition notent qu'il y a eu plusieurs violations des droits de l'homme. Donc pour eux, il faudrait que le chef de l'État abroge cette ordonnance qui fait du Kasaï un secteur opérationnel de l'armée. Par contre, pour la société civile, c'est peut-être plus un engagement fort dans le respect des droits de l'homme et aussi l'action contre tous les auteurs que la société civile dit jusqu'à présent avoir identifiés comme étant auteurs de plusieurs cas de viol des femmes, plusieurs cas de tuerie à travers la province. Mais les Kassaïens, là-bas, lorsque nous l'avons rencontré, tout le monde a fait la paix et le maître mot. Et il y a même une dame tout à l'heure qui nous a dit que nous voulons que le chef de l'État nous rassure que le processus d'enrôlement en Kassaï va bientôt commencer pour qu'on aille aux élections.
Qu'en est-il du problème de Kamuina Nsapu et comment ça se passe avec son successeur?
Le successeur de Kamuina Nsapu, M. Jacques Lipumakandéga, est entre deux avions, entre Kananga et Kinshasa. Il ne s'est pas encore rendu au village. Pour l'instant, il y a des cours sur le territoire de Dibaya, qui est le centre même du phénomène de Kamuina Nsapu, où plus personne ne peut y mettre aujourd'hui le pied. Il n'y a pas longtemps, pour la passation des examens du baccalauréat, il y a eu des inspecteurs qui sont rentrés en catastrophe parce que des miliciens dans le territoire de Dibaya qui ne voulaient pas faire la passation des examens du baccalauréat.
Sosthène Kambidi, journaliste à la radio communautaire télévision chrétienne à Kananga, au Kassaï central.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
Au Maroc, vague de tensions dans le Rif, région du nord du royaume. Depuis le début du mois de Ramadan, plusieurs centaines de personnes protestent contre les conditions économiques et sociales dans le pays. Le leader de ce mouvement de contestation a été arrêté, mais la grogne ne faiblit pas. Pour en savoir plus, Salwa Jafari a joint par téléphone l'analyste politique Mustapha Tossa.
Les faits ont commencé par un accident à la limite très stupide. C'est un vendeur de poissons à la sauvette qui s'est fait écraser par un camion poubelle devant témoin. C'était une sorte d'étincelle qui avait provoqué de nombreuses manifestations et de nombreuses colères de la part des gens de Al-Husseima. Alors cette étincelle avait été le début d'une série de manifestations de colère des gens qui est devenu au fil des mois très revendicatif. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que cette série de manifestations a duré à peu près 7 mois. Leurs revendications sont d'ordre social et économique. Alors on sait que cette région, cette ville de Husseima souffre depuis des années d'une espèce d'enclavement et de marginalisation. Il n'y a pas beaucoup de projets économiques et il n'y a pas beaucoup de services publics.
Monsieur Tossa, parlons un peu de la gestion de l'État marocain face à ces manifestations. Il y a eu certains dérapages, on l'a tous vu dans certaines vidéos. Quelle est la stratégie de l'État dans ce cas particulier? Et est-ce une bonne stratégie à votre avis?
En fait, la stratégie de l'État, ils ont montré leur incapacité à découpiller un conflit social. Il y a eu des manifestations depuis 6 mois et pendant 6 mois, on a laissé faire. Alors on a laissé faire, juste pour rien, nous dirons pourquoi. Chacun avait sa propre agenda. On sait très bien qu'à Rabat et à Casa, à l'intérieur des partis politiques, il y avait un gouvernement qui était en train de se former. Il y avait des forces politiques qui avaient intérêt à ce que ça se forme, d'autres qui avaient intérêt à ce que ça capote. Donc la gestion a été un échec total parce qu'on ne peut pas laisser un mouvement social grossir de cette manière-là jusqu'à devenir, jusqu'à risquer une confrontation, une rupture totale avec le pouvoir central. Donc c'est un échec. Et en plus, quand il y a eu l'envoi d'une délégation ministérielle, les arguments présentés par cette délégation apparemment n'ont pas été suffisamment convaincants. Il n'y a pas eu de savoir-faire pour gérer cette crise, à tel point que s'il n'y avait pas l'erreur qui a été commise par Nasser Zafzafi, il n'aurait jamais pu être arrêté de cette manière-là. Mm-hmm. Nasser Zafzafi a commis une erreur politiquement et socialement mortelle, c'est de rentrer dans une mosquée, de prendre la force par force la parole et de prêcher un discours religieux qui est aux antipodes de la philosophie religieuse du pays. Donc il a commis une erreur et c'est ce qui a permis à la justice marocaine de lancer un mandat d'arrêt pour l'arrêter et donc pour le juger.
Voilà, c'était donc l'analyste politique Mustapha Tossa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ce 31 mai est marqué par la journée mondiale sans tabac dans le but de souligner les risques pour la santé liés au tabagisme et plaider en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. À Abidjan, une conférence de presse a eu lieu sur le sujet et Kabadou a joint Lassina Tal, président des ONG de lutte contre le tabac.
La journée mondiale 2007 dont le thème est « Tabac, une menace pour le développement ». Il était important pour nous d'attirer l'attention de nos décideurs sur un certain nombre de priorités pour notre pays, notamment l'adoption d'une loi relative à la lutte anti-tabac. Le 17 décembre 2014, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi en Conseil des ministres relatif à la lutte anti-tabac. Nous sommes en 2017. Jusqu'à ce jour, le projet de loi n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale. C'est l'interférence de l'industrie du tabac qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, le projet de loi n'a pas été transmis, bien que adopté en Conseil des ministres, n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale.
L'OMS parle de 7 millions de personnes qui perdraient la vie suite aux conséquences du tabac. Et parmi les mesures citées, il y a l'augmentation de façon drastique du prix du tabac. Est-ce que, selon vous, c'est une mesure qui peut marcher?
Oui, c'est une mesure qui peut marcher parce que c'est des mesures qui ont été prouvées ailleurs. On s'est rendu compte que quand on augmente d'un dollar, pratiquement, on a 42% déjà des ressources qui sont mobilisées pour nos pays. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne mesure et que dans le cadre même de notre campagne, c'est ce que nous avons essayé de lancer comme message fort, qui se plaignent nos gouvernements dans les pays en voie de développement, qui se plaignent qu'ils n'ont pas des ressources. Une surtaxe sur les produits du tabac serait une bonne source de mise de fonds pour financer le développement.
Journée anti-tabac, journée de sensibilisation. En quoi cela vous semble-t-il utile?
C'est utile parce que, vous savez, en matière de lutte contre le tabac, aujourd'hui, ce n'est pas dans tous les pays une priorité. Parce que dans nos pays, on se dit que la première préoccupation, c'est de lutter contre la pauvreté. Oubliant qu'il y a certains facteurs, comme le tabac, comme ça, qui exacerbe au contraire, qui amène plutôt à la pauvreté. Vous vous imaginez que les fumeurs, qui généralement sont des pères de famille, préfèrent payer de la cigarette, qui en réalité n'a aucun bénéfice sur leur santé, au contraire, qui va détruire leur santé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, 90% des cancers en Côte d'Ivoire ont pour facteur commun le tabagisme. Les personnes qui ont le cancer et les maladies liées au tabac, de façon générale, font dépenser à l'État ivoirien plus de 27 milliards de francs CFA.
Lassina Tal, président des ONG de lutte contre le tabac.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot, Morgane Guerriac à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 sur 24, un seul site internet, voafrique.com et notre page Facebook, bien sûr. Bonne soirée.
Esclavagisé pendant 400 ans. Elle s'est battue pendant trop longtemps. Si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève.